RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Fortement impactée par la pandémie de Covid-19, l'Europe tente de relancer son économie afin d'affronter la crise qui se profile et la récession du PIB de l'UE, estimée à 8% en 2020 par la Commission européenne. Un premier plan d'urgence de 540 milliards d'euros avait été mis en place en avril 2020. La Commission européenne s'appuie désormais sur deux instruments de relance, le budget pluriannuel et un plan de relance spécifique à l'Union européenne. Afin d'en savoir plus sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Baudouin Baudru, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Monsieur Baudru.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors pour commencer, pour faire un rappel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est voté le budget de l'Union européenne ?
Alors en fait, pour être concis, il y a deux types de procédures. La première concerne l'adoption en fait de ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire un budget européen pour une période de 5 à 7 années. Pour le moment, on est sur une période de 7 années. Et cette procédure est une procédure particulière puisque c'est le Conseil des ministres et le Conseil européen qui décident en réalité de la taille du budget pluriannuel et le Parlement européen a le seul pouvoir de dire oui ou non. Donc il peut rejeter en bloc l'accord qui est trouvé au Conseil ou il peut l'approuver. Évidemment, ça c'est une approche très simpliste parce que avant que le Parlement décide d'approuver ou de rejeter ce budget pluriannuel, il y a des négociations, il y a des dialogues entre le Parlement et le Conseil pour ajuster, le cas échéant, les enveloppes, les priorités, etc. Ça, c'est le budget pluriannuel. Et puis, l'autre procédure, c'est le budget annuel. Et pour le budget annuel, en fait, on a là une approche qui est beaucoup plus égalitaire en ce qui concerne le rôle du Parlement et du Conseil, puisque pour chaque budget annuel, il y a une négociation où le Conseil et le Parlement sont exactement sur le même pied d'égalité en ce qui concerne le budget de l'agriculture, de l'environnement, des transports, de la recherche. Ils ont exactement le même poids. Et chaque année, nous avons donc une négociation qui dure plusieurs mois, qui démarre avec une proposition de la Commission européenne au mois d'avril, mai, et puis qui se déroule jusqu'à l'automne avec le Parlement et le Conseil, et la Commission, effectivement, contribue à faire dégager un compromis entre ce qu'on appelle les deux bras de l'autorité budgétaire, que sont le Parlement et le Conseil. Nous avons donc deux procédures différentes. Il faut d'abord un cadre pluriannuel pour savoir quelles sont les enveloppes maximales que nous avons pendant une longue période de 7 ans. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on négocie chaque fois, chaque année, le budget de l'année suivante, entre le Parlement et le Conseil.
Alors justement, sur ce cadre pluriannuel, sur les 7 ans à venir, quelles sont les priorités proposées par la Commission européenne ?
Alors, ce qui est intéressant dans le mécanisme qui est en place au niveau de l'Union européenne, c'est que, ça paraît logique, mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est que les priorités politiques sont en fait prioritaires sur les allocations budgétaires. Je m'explique. La Commission européenne, présidée depuis l'année dernière par Ursula von der Leyen, a été approuvée et élue en quelque sorte par le Parlement européen sur la base d'un programme. Ce programme comporte 6 priorités. Et ces priorités, en fait, orientent en quelque sorte les investissements, le budget européen et donc les enveloppes des programmes qui doivent permettre effectivement la réalisation des objectifs définis selon chaque priorité. Alors, il y a 3 priorités, je dirais, essentielles dans le programme de cette Commission européenne. Donc, c'est un programme qui, je le répète, a été approuvé par le Parlement européen, mais qui a été également approuvé par le Conseil européen, par le Conseil des ministres également. Donc, 3 priorités essentielles qui sont maintenues malgré la crise du Covid, mais on reviendra sur ce point juste après. C'est tout d'abord le pacte vert, c'est-à-dire les objectifs climatiques, investir dans un modèle industriel qui a de moins en moins recours à des matières premières et notamment des énergies fossiles. Sous le pacte vert, il y a également effectivement la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Donc il y a plusieurs aspects. La deuxième priorité, qui bénéficie également d'un budget considérable, c'est la transition numérique, c'est de pouvoir transformer notre économie et nos sociétés en saisissant le potentiel du numérique, qui contribue d'ailleurs aussi en partie aux objectifs climatiques. Et la troisième priorité importante en termes d'investissement, c'est effectivement la dimension sociale de l'Europe, c'est la formation professionnelle, c'est l'aide aux plus démunis, c'est l'inclusion sociale de toutes ces personnes qui malheureusement n'ont pas terminé par exemple leur scolarité. Il faut leur permettre, leur donner une deuxième chance, permettre aux jeunes de trouver un emploi, de se requalifier le cas échéant. Et aussi malheureusement, c'est très actuel, les personnes qui vont perdre leur emploi, notamment à cause de cette fameuse crise Covid, eh bien leur proposer de nouvelles formations, les aider à trouver un emploi, à les accompagner, etc., etc. Donc voilà trois priorités qui se traduisent en effet par des enveloppes correspondantes très importantes en termes de protection des ressources naturelles, mais également par exemple la politique agricole commune, qui de plus en plus effectivement inclut des aspects de protection de l'environnement, la recherche, le Fonds social européen, le Fonds de développement régional, qui, tout ça doit contribuer effectivement à la réalisation de ces objectifs prioritaires.
Alors, à ce budget et ces priorités s'ajoute le plan de relance de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste?
Alors, le plan de relance, effectivement, est ce que je pourrais qualifier de révolution dans le contexte européen. Le cadre financier pluriannuel dont nous avons parlé jusqu'à présent est basé sur une proposition qui avait été faite en 2018 sous l'ancienne commission, n'est-ce pas, la commission Juncker. Entre-temps, une nouvelle commission s'est installée, qui a repris dans les grandes lignes la proposition précédente, mais qui l'a ajustée à la marge, je dirais. Mais au début de cette année, est arrivé le virus sur le continent européen et cette crise sanitaire a eu un impact considérable, notamment sur les économies, notamment sur l'emploi et évidemment tout d'abord sur les systèmes de santé des États membres et le personnel soignant. Et face à cette crise inédite, la plus importante depuis finalement la création de l'Union européenne, la Commission a proposé, avec l'aide effectivement d'un certain nombre d'États membres et en particulier des initiatives prises par la France et l'Allemagne, le président Macron et la chancelière Merkel, de mettre en place un plan de relance, donc un instrument doté de 750 milliards qui sera dédié à aider les économies européennes et en particulier les plus touchées par la crise sanitaire, à se redresser, à éviter effectivement qu'on mette au chômage un nombre considérable de personnes parce que les activités des entreprises, notamment les PME, les restaurants, tout ce qui est événementiel, le tourisme, etc., pour éviter que toute cette partie de l'économie ne sombre définitivement dans l'inactivité, on a donc mis en place un certain nombre d'instruments. Vous avez fait référence tout à l'heure effectivement à un premier volet qui n'était pas le plan de relance, qui était ces 460 milliards pour aider justement l'économie à se maintenir. Le plan de relance, lui, va effectivement booster en fait cette économie qui est fragilisée par la crise, mais ce plan de relance sera cohérent avec les priorités que j'ai évoquées tout d'abord, c'est-à-dire une économie verte, respectueuse de l'environnement et une transition numérique en particulier. De sorte que ce plan de relance de 750 milliards va aider les États membres en difficulté aujourd'hui, mais en les encourageant à conduire des réformes, à modifier leur modèle économique pour qu'en effet, on passe le plus rapidement possible vers une économie qui est plus verte, plus respectueuse, qui effectivement va être en mesure de contribuer à l'objectif de neutralité climatique en 2050, mais également à se transformer au niveau numérique, et le commissaire français Thierry Breton en parle beaucoup mieux que moi, mais également à ce que cette transition écologique et numérique soit une transition juste, c'est-à-dire que tout le monde puisse participer à cette modernisation de l'économie et qu'on ne laisse pas de côté des salariés qui n'ont pas aujourd'hui peut-être les formations nécessaires ou les compétences nécessaires pour pouvoir jouer à plein leur rôle dans une économie verte et numérique. Donc, il y aura vraiment les trois volets principaux que j'ai évoqués tout à l'heure par rapport au cadre pluriannuel qui vont soutenir en fait les mesures que les États membres vont pouvoir mettre en œuvre grâce à ce plan de relance au niveau de 750 milliards pour l'ensemble de l'Union européenne.
Ce plan de relance, comme vous l'avez précisé, représente une somme considérable pour l'Union européenne. Comment va-t-il être financé et comment ces sommes vont être réparties entre les États membres de l'Union européenne ?
Alors, le financement, effectivement, là aussi, est une révolution, puisque les trésoreries des États membres sont fortement impactées par les mesures que les États membres ont prises pour soutenir leur économie. Et d'ailleurs, pour permettre à ces États membres de prendre des mesures de soutien financier considérables par des voies de prêts garantis ou par des subventions directes, notamment aux entreprises en difficulté, etc., aux salariés pour leur permettre de rester en activité partielle, ces trésoreries n'ont plus la possibilité aujourd'hui d'augmenter de manière massive, si vous voulez, leur contribution au budget européen. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé ? C'est en fait que la Commission puisse emprunter sur les marchés financiers mondiaux à un taux extrêmement favorable, puisque l'Union européenne, la Commission européenne en particulier, bénéficie en fait d'un, on appelle ça un rating, enfin donc une évaluation de fiabilité très très élevée, enfin la plus élevée qui existe sur les marchés financiers, le fameux triple A, de sorte que la Commission peut emprunter avec effectivement des conditions extrêmement favorables. Mais pour ça, il faut que l'emprunt soit garanti, il faut qu'il soit couvert quelque part. Et ce que nous avons proposé, ce qui a finalement été acquis, et c'était aussi une initiative qui a été soutenue et même lancée par la France et l'Allemagne au mois de mai, c'est que ces emprunts soient garantis par les États membres, par tous les États membres, même si tous les États membres ne vont pas bénéficier de la même façon et au même niveau de cette aide financière à hauteur de 750 milliards, puisque certaines économies ont traversé cette crise de manière plus robuste, je vais dire, et donc ont des besoins moindres parce qu'ils ont été moins impactés par le Covid-19. Donc c'est véritablement une expression de solidarité européenne à 27 que tous les États membres ont été d'accord pour garantir ces prêts, ces emprunts, alors même qu'ils ne vont pas en bénéficier au même niveau. L'idée, effectivement, c'est de maintenir le marché intérieur dans son ensemble suffisamment robuste pour pouvoir repartir et relancer nos économies avec effectivement une convergence entre les économies des États membres, parce que une différence trop importante des économies entre les États membres pourrait poser un problème.
Eh bien, merci Monsieur Baudru pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique le 5 novembre.
Merci à vous tous.